à Munich, vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Winston Churchill, après la conférence de Munich. Mille ans d'histoire. Il y a 70 ans, dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938, à Munich, le chef du gouvernement français, Édouard Daladier, et le premier ministre britannique, Neville Chamberlain, signaient avec Hitler et Mussolini un accord qui mettait fin à la crise la plus grave qu'ait connue l'Europe depuis la Première Guerre mondiale. Le matin du 29 septembre, une nouvelle guerre semblait encore inévitable et des millions d'hommes avaient été mobilisés sous les drapeaux en France, en Angleterre, en Allemagne et surtout dans le pays qui, depuis deux semaines, était malgré lui à l'origine de la crise, la Tchécoslovaquie. Le 12 septembre, devant 200 000 personnes à Nuremberg, Hitler avait demandé au président tchécoslovaque Édouard Beneš de permettre aux 3 millions d'Allemands qui vivaient dans son pays, dans la région des Sudètes, d'être rattachés au Troisième Reich. La Tchécoslovaquie étant l'allié de la France, Hitler savait qu'en formulant cette exigence, il pouvait provoquer une guerre, mais il était prêt à en prendre le risque.
Tous les regards se portent sur la Tchécoslovaquie. Un arbitre anglais, Lord Runciman, est à Prague et s'emploie à concilier les points de vue qui s'opposent. Mais brusquement, la situation s'aggrave. Au cours du congrès de Nuremberg, un discours passionné déchaîne des incidents sanglants dans la région des Sudètes.
Ce que demandent les Allemands, c'est le droit à l'autodétermination dont tous les autres peuples disposent. Ils ne demandent pas de cadeaux. Monsieur Beneš n'a pas de cadeaux à faire aux Allemands des Sudètes. Ils ont le droit de prendre en main leur propre destin, comme tous les autres peuples. Mais j'entends que cesse l'oppression des 3,5 millions d'Allemands en Tchécoslovaquie.
Jean-Pierre Azéma, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était le discours par lequel le 12 septembre 1938 à Nuremberg, Hitler provoquait la crise la plus grave qu'ait connue l'Europe entre les deux guerres et qui allait conduire à l'accord de Munich. Vous le rappelez dans un livre de référence publié il y a quelques années au Seuil qui a été réédité, De Munich à la Libération. Un livre qui commence donc en 1938 avec la conférence de Munich et se termine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme si la Deuxième Guerre avait commencé à Munich alors que cet accord de Munich était au contraire destiné à l'empêcher.
Oui, alors pourquoi j'ai commencé probablement parce que mon éditeur m'y a poussé, donc le Seuil, premier point. Le deuxième point, Munich, c'est une étape importante, pas décisive, importante. Ce qui va se passer le 15 mars 1939 avec l'entrée de la Wehrmacht dans Prague est au moins aussi important. On en verra les conséquences, et a fortiori l'été 39, où on va déboucher directement donc sur le déclenchement en septembre de la Seconde Guerre mondiale. Reste que, c'est une étape importante parce qu'elle est à la fois, provoque un grand ébranlement et donne lieu donc à une nouvelle donne dans les relations internationales. Et d'autre part aussi, c'est un révélateur du dissensus, mettons, en Grande-Bretagne. En Allemagne, éventuellement, où il y a plus de réticence à la guerre qu'on ne le dit généralement, et surtout peut-être en France, un dissensus donc entre les partisans de la paix par la fermeté et les partisans de la paix par la conciliation. Il y a la paix toujours. Mais voilà, et il y aura des Munichois et des anti-Munichois.
Alors, un accord quand même très important, on y fait constamment référence aujourd'hui, on dit toujours, quand quelqu'un cède devant un dictateur, vous êtes un Munichois, vous avez renoncé à faire la guerre pour préserver la paix, vous avez favorisé la dictature. Mais avant d'en venir aux conséquences, même très lointaines, de ces accords de Munich, rappelons les origines. On a entendu parler, Hitler parler des Sudètes. Il faut rappeler qu'à l'origine de cette crise, il y a des Allemands qui ne vivent pas en Allemagne, mais qui vivent en Tchécoslovaquie, depuis que ce pays a été créé. créé après la Première Guerre mondiale, les Allemands des Sudètes, et c'est précisément ces Allemands que Hitler veut rattacher à l'Allemagne.
Oui, ça fait partie des Volksdeutsche, c'est-à-dire des Allemands qui sont en dehors des frontières de l'Allemagne proprement dite. Ils considéraient aussi les Alsaciens lorrains comme des Volksdeutsche, Hitler. Alors, ça naît en 1918, la Tchécoslovaquie. C'est un pays, on viendra peut-être, qui fonctionne pas mal économiquement, bien politiquement.
Seule démocratie de la région.
Voilà, de Mitteleuropa, de l'Europe centrale. Mais avec, il est vulnérable pour une chose, c'est-à-dire que le gouvernement tchèque, ou le président Beneš en particulier, veut que la Tchécoslovaquie soit un État national et non pas fédéral. Et notamment, il y a d'abord 3 millions de Slovaques, il y a 7 millions de Tchèques, 3 millions de Slovaques. Il y a, je crois, 700 000 Hongrois, il y a 100 000 Polonais, et il y a 3 200 000 Allemands, c'est-à-dire une région où on pouvait, dans certains coins, parler de manière majoritaire allemand. Il n'y a pas que des Allemands dans la région des Sudètes. C'est une région donc au nord-ouest de la Tchéquie, enfin, de la région tchèque proprement dite. C'est une région qui jusqu'alors avait été relativement calme. Mais à partir de 34-35, un petit parti ultranationaliste, soutenu par les nazis, va commencer à s'agiter, faire des manifestations, va être appuyé donc par le Reich, va commencer par demander l'autonomie culturelle, l'autonomie administrative, puis ensuite, de fait, sécession, le droit donc de disposer d'eux-mêmes, et c'est à quoi donc se réfère de manière assez astucieuse Hitler, qui là ne dit pas « je vais continuer à envahir, à germaniser l'Europe, je me contente de réclamer les frères en dehors des frontières, et dans le fond, ils ont le droit » d'avoir le droit de disposer d'eux-mêmes.
Alors c'est une violation quand même des traités.
Puisque, oui, certes.
Alors cela dit, Hitler avait déjà commencé, il avait, contre les traités de l'après-première guerre mondiale, il avait déjà réarmé l'Allemagne au mépris de ces traités, il avait occupé la Rhénanie et il avait annexé un autre pays où vivaient des Allemands qui était l'Autriche. Mais cette fois-ci...
C'est l'Anschluss donc.
Oui, c'est l'Anschluss. Ça c'était en mars 38. Et puis il s'en prend donc à la Tchécoslovaquie dont il veut annexer...
Mais c'est toujours des Allemands.
C'est toujours des Allemands.
En mars 39, il va commencer à manger des Slaves.
En tout cas, pour l'instant, ce sont des Allemands, ceux des Sudètes, qu'il veut annexer au Reich. Mais la Tchécoslovaquie étant alliée de la France, eh bien, Hitler prenait le risque d'une guerre que tente d'empêcher le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain.
Pour éviter le pire, M. Chamberlain vient à Berchtesgaden. Un plan de paix est élaboré. Et les nuages qui pesaient sur l'Europe semble devoir se dissiper.
After my visits to Germany, I realized vividly how Hitler feels.
Après mes visites en Allemagne, j'ai clairement réalisé combien M. Hitler est attaché à la cause des Allemands. Il m'a dit, elle a répété hier soir publiquement, qu'une fois la question des Allemands des Sudètes réglée, il en serait fini des revendications territoriales allemandes en Europe.
Compris, pas besoin qu'on vous l'apprenne pour danser la chamberlaine. Il ne vaut qu'un parapluie.
Vraiment, c'est bien charmant, la chamberlaine.
Faites votre choix, soyez adroits.
1, 2, 3, vous prenez sa parapluie pour danser la chamberlaine. Vise au bras d'un faux sami, vous le suspendez sans peine.
À cet instant, le copain vous confie sa cavalière, puis à son tour.
À toi avec le pépin.
Et c'était la chamberlaine, Reventura et ses collégiens brocardant le Premier ministre britannique Chamberlain, hein, qui a joué un rôle essentiel dans ces accords
oui,
de Munich.
La Grande-Bretagne a joué un rôle important. Concerné. Oui, on a parlé, les historiens parlent volontiers de la gouvernante anglaise, c'est-à-dire la direction donc par l'Angleterre, voulue par Chamberlain, qui ne consulte que de manière épisodique Daladier.
Chamberlain, premier ministre français, on disait le président du Conseil.
Oui, le président du Conseil, pardon. Oui, le président Édouard Daladier. Oui, j'ai dit premier ministre, j'ai tort, bien entendu. Le président du Conseil. C'est une position des Britanniques qui n'est pas nouvelle. Les Britanniques sont toujours opposés aux conséquences du traité de Versailles, ont toujours estimé que l'économie continentale était européenne était bloquée donc par la manière dont avait été traitée donc l'Allemagne dans les années 20. Et puis il y a de l'antisoviétisme beaucoup. La peur de ce qui va se passer, et ça va peut-être profiter donc à l'Union soviétique. Ne pas oublier également que l'Empire, pour les Britanniques à l'époque, c'est plus important que ce qui peut se passer en Europe. Donc on se dégage de ce qui pourrait être des alliances à l'Est, qui pourrait amener le déclenchement d'une guerre. Et puis il y a quand même 750 000 Anglais qui sont morts pendant la guerre de 14-18.
Alors c'est ce qu'on appelait la politique d'apaisement.
Hein, oui, d'apaisement.
Qui fait que Chamberlain va voir Hitler après le 12 septembre. Il va le voir deux fois, le 15 septembre à Berchtesgaden, le 22 septembre à Bad Godesberg. Hitler fait d'ailleurs monter les enchères. Il annonce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il envahit les Sudètes le 1er octobre 1938. Alors, Hitler qui discute avec Chamberlain parce qu'il sait que Daladier, le chef du gouvernement français, lui, est plus ferme. Il est bien décidé à défendre son allié tchécoslovaque, au début en tout cas. Oui. Il est prêt à le faire, en tout cas.
Enfin, il y a trois écoles, en gros, oui. C'est, ou trois sensibilités. Il y a une sensibilité qu'on trouve dans une bonne partie des diplomates français de l'époque, c'est-à-dire faut tenir bon. Si jamais on ne tient pas bon, ça va être la guerre et en facilitant le travail de Hitler. La deuxième sensibilité, c'est celle de ceux qu'on va pouvoir appeler les apiseurs français, représentés par Georges Bonnet, c'est-à-dire...
Qui était ministre des Affaires étrangères.
Oui. Pardon, qui est un radical socialiste. La paix, oui, la paix, la seule manière, c'est par la conciliation. Et surtout pas par la fermeté, pas d'affrontement. Qui serait un suicide politique, qui serait un suicide géopolitique, et avec derrière toujours l'armée rouge et le camarade Joseph, le camarade Staline. Bon, attention à tout cela. Et puis la troisième, c'est Daladier, qui a aussi un certain nombre de supporters, si j'ose dire, et Daladier hésite. Il hésite entre... Il est plutôt ferme, il est pour la fermeté, mais en même temps, il est sensible au fait que l'armée ne serait pas totalement prête. Il est sensible au fait que l'opinion est partagée. Il est sensible au fait qu'il doit suivre coûte que coûte la Grande-Bretagne. C'est la seule alliée véritable, sauf peut-être l'URSS. Mais on ne sait pas exactement ce qu'elle veut, l'URSS. Alors, il hésite et il va finir par basculer du côté des Munichois, si j'ose dire, pour cette raison qu'il a peur, effectivement. D'abord, c'est un ancien combattant. N'oublions pas, pendant 4 ans, et pour lui, la guerre, c'est quelque chose. Il a peur que la France soit en état d'infériorité au niveau de l'armée. Et puis, il a cette idée qu'il faut gagner du temps.
Alors vous dites, Munichois, on n'est pas encore là. Nous sommes avant le 29 septembre. Daladier est quand même assez ferme. Il mobilise l'armée. On est vraiment à deux doigts de la guerre. Lorsque le 28 septembre, Hitler invite Daladier, Chamberlain et Mussolini à une dernière conférence, 2 jours avant la date fatidique du 1er octobre, date à laquelle il avait décidé d'envahir les Sudètes.
Rien désormais ne semble plus pouvoir arrêter la guerre. Devant l'imminence du péril, l'évacuation de Paris commence et la défense passive s'organise. Chamberlain, après avoir téléphoné à Daladier, demande à Mussolini de parler à Hitler, lequel accepte de réunir à Munich une conférence.
Mesdames, messieurs, veuillez écouter Monsieur Daladier, président du Conseil.
J'ai été saisi au début de cet après-midi d'une invitation du gouvernement allemand à rencontrer demain matin à Munich le chancelier Hitler, M. Mussolini et M. Neville Chamberlain. J'ai accepté cette invitation. Mais avant mon départ, je tiens à adresser au peuple de France mes remerciements pour son attitude pleine de courage et de dignité.
Et c'était Édouard Daladier, juste avant qu'il parte à Munich le 29 septembre 1938 pour cette conférence de la dernière chance, si on peut dire, et à laquelle vont participer, on l'a entendu, quatre pays, l'Italie représentée par Mussolini, l'Allemagne bien sûr par Hitler, Daladier représentant la France et Chamberlain l'Angleterre. Il y a deux absents, et dont un est absolument étonnant. On va à Munich discuter du sort de la Tchécoslovaquie. Or, elle n'est pas là, elle n'est pas invitée. Il y a juste un représentant qui est en coulisses et qui va attendre les résultats, Jean-Pierre Azéma. C'est assez extraordinaire, cette conférence.
Oui, alors j'en viens simplement en 30 secondes sur l'importance et le rôle de Mussolini, qui maintenant a choisi, voilà, qui a toujours hésité entre, mettons, les démocraties libérales et Hitler, parce qu'il y avait l'Autriche qui était en jeu avant d'Anschluss. Et il a choisi. Il a choisi le camp hitlérien, et c'est lui qui va de fait préparer, si j'ose dire, cette conférence, qui est quand même extraordinaire, si vous voulez. Ça dure 2 heures. Bon, on n'a jamais vu, et à une telle rapidité, le dépeçage d'un pays qui n'est pas présent. C'est stupéfiant, rétrospectivement. C'est quelque chose, c'est même ahurissant.
Alors, son absence, hein, je répète, les Tchécoslovaques ne sont pas invités.
Alors, ils ont deux diplomates, autant que je me souvienne, qu'ils ont mis dans une sorte de placard, loin des salles officielles. Et lorsque tout a été terminé, le club des charcutiers a pu dépecer la Tchécoslovaquie. Alors, on les a prévenus que les quatre grandes puissances avaient décidé que ceci et cela. Et puis, il y en a une autre absente. Et là, vous voyez, le pacte germano-soviétique, il n'est pas très loin. Il n'est pas fait encore, mais Staline se souviendra toujours que à Munich, l'URSS a été volontairement donc éliminée.
Écartée, alors qu'elle est l'alliée de la Tchécoslovaquie.
Elle est l'alliée de la Tchécoslovaquie à condition que la France fasse honneur à ses obligations. Elle n'interviendra qu'après.
Petit détail quand même important, Jean-Pierre Azéma, si la Tchécoslovaquie est attaquée, elle ne peut pas intervenir car elle n'a pas de frontière commune avec elle.
Elle ne peut pas directement. Alors, ni la Roumanie, ni la Pologne, ils ont obtenu quand même des avions soviétiques de l'armée rouge donc puissent survoler la Roumanie et aider éventuellement Tchèque, mais il y avait aussi le problème polonais. C'est tout à fait vrai. Reste que Chamberlain s'est félicité, quasiment officiellement, que l'URSS n'était pas présent. Ouais, ça c'est... Voilà.
Alors cet accord, on en parle tout le temps, on oublie son contenu. C'est une véritable capitulation, malgré Daladier qui essaye tant bien que mal de l'empêcher. Que se passe-t-il, Jean-Pierre Azéma? Eh bien tout simplement, finalement, tout le monde se met d'accord sur le fait que les Sudètes vont revenir à l'Allemagne, et pire encore, que la population tchèque qui habite dans les Sudètes en sera évacuée. C'est vraiment, on cède à toutes les exigences de Hitler.
Oui, c'est les cantons où il y a plus de 50% donc des les habitants qui parlent l'allemand, qui sont de fait annexés. Un deuxième point qui n'est pas négligeable, les fortifications devront demeurer en l'état.
Oui, parce que c'était un point stratégique, hein, les Sudètes.
Voilà. L'armée tchèque avait quand même 32 divisions, enfin je veux dire, c'est quand même pas nul. Et surtout, ni l'Italie ni l'Allemagne n'acceptent de garantir les nouvelles frontières, ce qui explique ensuite ce qui va se passer en mars 1939.
Et donc cet accord est signé le 30 septembre à 1h30 du matin, une véritable capitulation que Chamberlain et Daladier vont devoir expliquer aux Anglais et aux Français quand ils rentrent tous les deux dans leur pays le 30 septembre, Daladier à Paris et Chamberlain à Londres, où à la descente de l'avion, il brandit fièrement l'accord qu'il vient de signer avec Hitler.
And here is the paper which bears his name upon it as well as mine.
Voici le document qui porte sa signature et la mienne.
We regard the agreement signed last night.
Les accords qui ont été signés la nuit dernière sont le symbole du désir de nos deux peuples de ne plus jamais se faire la guerre. Édouard Daladier.
La paix, qui semblait perdue, a été trouvée. Mais je sais que je ne me suis pas incliné sous la menace. La vérité, c'est que l'acte de Munich a été un compromis. La vérité, c'est que l'acte de Munich a été un accord de raison.
Oui, ce sont de bons copains, Daladier et Chamberlain. Ils sont francs et réguliers, Chamberlain et Daladier.
ce qu'ils signent de leurs mains. Daladier et Chamberlain, ce n'est pas un chiffon de papier, Chamberlain et Daladier.
Et c'était pourtant un chiffon de papier, c'était Andrex en 1938, deux bons copains. Alors ce chiffon de papier, ce sont ces accords de Munich. Ce qui est extraordinaire, Jean-Pierre Azéma, vous le rappelez, c'est que quand ils reviennent tous les deux dans leurs pays respectifs, Chamberlain et Daladier, ils sont accueillis triomphalement. Daladier craignait de se faire critiquer, de se faire lyncher parce qu'il avait abandonné un allié, la Tchécoslovaquie, et il est accueilli triomphalement à Paris.
Oui, il aurait dit « allez con ». Enfin,
oui, en parlant des gens qui l'attendaient.
Oui, il aurait été dans l'avion quand il voyait qu'il y avait quand même pas mal de gens. Il pensait être lynché, puis ensuite tout le monde l'applaudissait, etc. etc. Il faut comprendre, si vous voulez, les historiens, on a des anti-Munichois et des Munichois. Mais on ne fait pas suffisamment attention, on n'insiste pas suffisamment sur le fait qu'il y a des Munichois d'un jour. C'est-à-dire que le jour où, pense-t-on, la paix a été sauvée.
Les Munichois, donc, les partisans de cette paix, de cet accord.
De cette paix, les anti-Munichois, en principe, qui sont partisans de la fermeté, donc, et d'empêcher le dépeçage de la Tchécoslovaquie. Et alors, je vais vous donner un nom qui peut surprendre. Il s'appelle Léon Blum. Il est l'un des patrons de la SFIO, l'anti-PS de l'époque. Il est connu pour sa fermeté. Il a repris d'une certaine mesure en main la SFIO pour faire en sorte que ses camarades quand même défendent la politique de fermeté de Daladier. Et alors, je vais vous citer deux textes. Un très connu et l'autre un peu moins connu. Le premier, c'est le texte que rédige Léon Blum, un article dans le Populaire du 20 septembre 1938, c'est-à-dire quelques jours
avant Munich,
où il dit que il exprime son profond désarroi. La guerre est probablement écartée, mais dans des conditions telles que moi, qui n'ai cessé de lutter pour la paix, je n'en puis éprouver de joie et que je me sens partagé entre un lâche soulagement et la honte.
Très célèbre. Le lâche soulagement, c'est le fameux mot,
voilà,
d'ailleurs.
Lâche soulagement et la honte. Oui, oui, voilà. Mais le lendemain de Munich, lisons toujours Léon Blum, lisons toujours le Populaire. Et voilà ce que dit Léon Blum. Il n'y a pas un homme et pas une femme en France pour refuser à Neville Chamberlain et à Édouard Daladier leur juste tribut de gratitude. La guerre est écartée. Le fléau s'éloigne, on peut reprendre son travail et retrouver son sommeil, on peut jouir de la beauté d'un soleil d'automne. Mais ce n'est pas lâche soulagement et ce n'est pas la honte.
Soyons justes.
Oui, oui, à oui, l'époque, soyons justes.
Jean-Pierre Azéma, personne ne peut savoir ce qui va suivre. Maintenant, on connaît l'histoire et tout le monde est évidemment anti-Munichois.
C'est pour expliquer pourquoi il y a cette espèce de. Oui. Ce soulagement tripal.
Mais parce qu'on a peur de la guerre.
Oui, c'est le pacifisme viscéral.
Elle s'est terminée 20 ans avant, même
oui,
pas.
Oui, bien sûr, avec 1,4 million de morts et tout le reste. Mais voilà, il y a ça. Il y a ça. Et ensuite, Blum récupère, si j'ose dire, quelques jours après, et redevient un anti-Munichois complet.
Même chose en Angleterre, lâche soulagement, comme disait Blum, tout le monde approuve Chamberlain, sauf une personne, peut-être que c'est un peu plus tard, mais c'est Winston Churchill avec cette phrase sublime, « À Munich, disait-il à Chamberlain, vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre, et la guerre a éclaté an plus tard. »
Oui, tout ça est vrai, mais dans le fond, chez les Britanniques, un seul ministre démissionne, pas Churchill. Dove Cooper, et il y a Churchill et d'autres partisans, disons churchilliens, qui sont une cinquantaine, qui s'abstiennent, qui ne votent pas pour Chamberlain.
En tout cas, on est persuadé que c'est la paix pour longtemps, c'est même ce que dit Chamberlain, it's peace for our time. 6 mois plus tard, il déchante, puisque au mépris des accords de Munich, Hitler franchissait la frontière de ce qui restait de Tchécoslovaquie le 16 mars 1939.
Le 12 septembre dernier, M. Hitler avait dit « Ce que les Allemands demandent, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » Le 26 septembre, M. Hitler avait dit « Le problème des Sudètes est notre dernière revendication territoriale en Europe. » Le 29 septembre dernier, l'accord de Munich, paraphé par les gouvernements français, anglais, allemand, italien, terminait la crise extrêmement grave que le problème des Sudètes avait ouverte en Europe. La France et l'Angleterre s'inclinaient. La Tchécoslovaquie consentait à l'amputation de son territoire et l'Europe prenait acte des assurances données par le Führer. Le 16 mars, au mépris de sa parole, M. Hitler entre à Prague. Un attentat inqualifiable a été perpétré contre la Tchécoslovaquie. Par sa seule volonté, l'Allemagne a envahi le pays dont elle s'était engagée à garantir l'existence.
Et voilà ce que l'on pouvait entendre et voir aux actualités filmées en 1938, après l'invasion de la Tchécoslovaquie, 6 mois après Munich. On voit bien que cet accord a été un chiffon de papier, dont les conséquences sont absolument considérables. Jean-Pierre Azéma, vous les rappelez. Première conséquence, la Tchécoslovaquie, devenue vulnérable, puisqu'elle avait perdu cette forteresse naturelle qui était les Sudètes, eh bien, est annexée. C'est le premier pays non-allemand que Hitler, annexe, rattache au Reich, et il y en aura d'autres. Et puis alors surtout, il y a une conséquence importante en Allemagne, on la mesure pas assez, le prestige de Hitler. Voilà que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il parvient à faire, il le fait sans guerre. Les opposants à Hitler n'ont plus grand-chose à dire.
Oui, tout à fait. Ça renforce considérablement le pouvoir de Hitler, le Führerprinzip. Les opposants, il y en avait une partie dans la Wehrmacht, une partie des opposants, dans la mesure où ils estimaient que c'était une politique aventureuse. L'opinion est reconnaissante à Hitler de ses succès de politique extérieure. Alors que à Munich, une partie des Allemands étaient quand même assez réticents. Ils chantaient « Vive la paix à Munich, qu'on nous amène le petit Daladier », etc., etc. C'est plus important. Mais voilà, ensuite, 38, 39, voilà. Hitler, maintenant, est bien assis. Il a réussi à tout dominer. C'est une première conséquence. La deuxième, c'est donc le pacte germano-soviétique qui ne va pas être très très loin. Le troisième...
Oui, plus personne ne fait confiance à la France et à la Grande-Bretagne. Non. On se doute bien qu'ils ne viendront pas au secours de qui que ce soit. Voilà. Ils n'ont pratiquement plus d'alliés.
Oui.
Et l'URSS se tourne vers oui. l'Allemagne.
Alors c'est que si on regarde ça, c'est qu'après mars 39, une partie de l'opinion britannique et une partie de l'opinion française va basculer du côté de la fermeté et soutenir Daladier, comme il soutiendra plus tard ensuite Churchill.
Alors recul, sans
nul doute.
Est-ce que ça aurait changé quelque chose, une intervention française à Munich, en faisant la guerre un an avant qu'elle se déclenche?
C'est difficile, c'est très difficile à dire. Vous savez que les historiens n'aiment pas faire des prophéties rétrospectives. Il est certain que c'est ce qui permet parfois de dire que Chamberlain est moins critiquable qu'on ne fait généralement, c'est que aussi bien les Français que les Britanniques vont se muscler au niveau de la défense nationale. Les Français au niveau des blindés et surtout les Anglais au niveau de leur aviation. D'une certaine mesure, le répit qui sera gagné explique que les Anglais gagneront la bataille d'Angleterre et qui changera la face de la Deuxième Guerre mondiale.
Le répit, c'est ce qu'attendait Daladier, c'est ce que vous dites.
En tous les cas, c'était la stratégie de Daladier. Et d'une certaine mesure, il n'avait pas tort. Enfin, du moins, il y avait une certaine cohérence dans son attitude.
Merci Jean-Pierre Azéma. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres « De Munich à la Libération », réédité au Seuil dans la collection Point Histoire, et 1938-1948, les années de tourmente de Munich à Prague, dictionnaire critique dirigé avec François Bédarida et publié aux éditions Flammarion. À lire aussi Georges Bonnet, Le combat d'un pacifiste de Jacques Puyaubert aux presses universitaires de Rennes, La trahison de Munich de Emmanuel Mounier, La grande débâcle des intellectuels, présenté par Michel Vinocq et édité par Nora Benkorich aux éditions du CNRS, et De Munich à Vichy, Dany Lacroix-Rise, chez Armand Collin. Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1938 et 1939, issues du journal de votre année et disponibles en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Loïc Frapsos et Éric Morin. Documentation et archivina et BBC, Emmanuel Fournier et Camille Pouget-Laguier. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, quand Rome avait un fou à la tête de l'Empire, Caligula.